nous rentrons dans une nouvelle ère.
Face aux menaces qui pèsent sur l'Europe, Emmanuel Macron a sonné la mobilisation générale.
C'est pourquoi la patrie a besoin de vous, de votre engagement.
Pour le chef de l'État, le moment exige des décisions sans précédent. L'idée de mettre en place une véritable économie de guerre se précise.
Il ne faut pas se le cacher. Nous devrons faire plus d'efforts parce que pour nous protéger, pour bâtir cette économie en faveur de la paix et renforcer la défense dans un modèle européen, nous allons devoir dépenser plus d'argent public.
Va-t-il falloir faire des choix entre le régalien et l'État-providence ? Des économistes et des sociologues affirment qu'il faudra arbitrer entre les canons et les pensions. De quoi faire bondir la gauche et les syndicats ?
On ne peut pas avoir ce débat opposant la défense et le social.
On ne pourra pas choisir entre le canon et les allocations.
Cette formule, elle est terrifiante.
Si on veut allumer cette flamme patriotique, c'est pas en l'éteignant avec un grand seau d'eau sur la justice sociale.
Le débat est d'autant plus inflammable qu'il intervient au moment où syndicats et patrons sont engagés dans une difficile négociation sur les retraites. Les représentants des salariés veulent revoir l'âge de départ repoussé à 64 ans, mais l'effort de guerre vient perturber les concertations. Alors l'augmentation des dépenses militaires pourrait-elle entraîner un départ à la retraite encore plus tard, à 65 ou 67 ans ? Le réarmement de la France se fera-t-il au détriment de notre modèle social ? Faudrait-il un nouveau quoi qu'il en coûte, s'endetter sans compter, ou encore créer un livret d'épargne populaire spécifique à la défense ?
Mission militaire qui prévoit de monter à environ à 70 milliards, 68 exactement, en 2030. Donc l'effort, c'est 30 milliards supplémentaires en 2030, c'est un énorme effort. 30 milliards, c'est un point du PIB, donc c'est très important. Mais on ne parle pas du tout du Covid ou de ces... Voilà, c'est
un, du quoi qu'il en coûte.
Quoi qu'il en coûte, à ces moments-là, on était sur des... Il y avait plusieurs centaines de milliards d'euros, donc c'est un effort très important. Oui, et pour moi, tout simplement, enfin, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, d'un point de vue géopolitique, c'est presque l'équivalent de la fin de la guerre froide. Tout l'Occident, la logique même de l'Occident est en train de se fracturer. Le sous-jacent, c'était quand même que les États-Unis soutiendraient l'Europe. Donald Trump a tout envoyé, a absolument brisé cette logique du jour au lendemain. J.D. Vance est quand même venu à Munich faire la leçon aux Européens.
Le
vice-président américain.
Donc pour vous, c'est justifié. Pour vous, l'effort de guerre.
On a complètement changé de monde. Par ailleurs, il y a quand même la guerre en Ukraine, en Europe. Donc entre les États-Unis et la Russie qui sont en train de se rapprocher sur le dos de l'Europe et tout ça, pensant qu'à la Chine, soyons honnêtes, l'Europe est un peu en train de sortir. Donc évidemment qu'il faut l'autonomie est cruciale en ces temps.
Les États-Unis, à la Russie et à la Chine, évidemment. La question est comment on y aboutit. Vous avez parlé de la loi LPM. Bien, très bien. Nous avions une loi de programmation militaire. Qui a été établie il y a deux ans, la programmation militaire qui a été établie pour deux ans jusqu'en 2030. L'idée de la programmation, c'est de voir et d'analyser la situation pour se projeter. Déjà, elle a été avancée de deux ans, on ne sait pas pourquoi, alors que sinon on serait en plein dans la discussion de la LPM, si le président Macron n'avait pas décidé d'avancer la précédente LPM de deux ans. Donc, première erreur d'Emmanuel Macron. Ensuite, là, on est en pleine discussion d'une revue nationale stratégique, c'est-à-dire définir quels sont les enjeux du temps présent. Et le secrétaire général à la Défense nationale doit rendre sa copie en mai.
Mais là, il y a des faits historiques. L'histoire est en train de se jouer devant nous, donc
évidemment.
C'est impératif, non ?
Emmanuel Macron réagit à ce qui s'est passé dans le bureau ovale à Washington,
évidemment.
Par exemple.
Il réagit.
Ce
que je ne comprends pas, c'est comment Sébastien Lecornu peut savoir... Alors même que la revue nationale stratégique est en cours de discussion au sein des armées, au sein des services de renseignement, où tout le monde est en train, calculette à la main, de dire « alors il nous faudrait ça pour répondre à telle menace, etc. » Comment lui, deux mois avant que tous ces gens qui travaillent répondent à la question, lui il nous dit « il faut 100 milliards ». Pourquoi 100 milliards ?
Peut-être que moi, j'ai du mal à comprendre cette enveloppe supplémentaire, qui est peut-être justifiée en demeurant, mais à court terme, j'ai du mal à comprendre. Et surtout, sans quand on veut... En général, quand on annonce une enveloppe, c'est qu'on sait ce qu'on veut financer. Et aujourd'hui, alors peut-être qu'on sait ce qu'on veut financer, mais aujourd'hui, on ne nous l'a pas présenté. Et donc, par là même, j'ai un peu du mal à estimer ce qu'il va falloir financer puisqu'on ne me l'a pas présenté et combien ça va coûter. Et d'autre part, on est quand même...
Non, mais ce n'est pas le secret défense, ça, de dire j'ai besoin de 50 milliards, je ne peux pas.
voté par le Parlement, c'est la démocratie, donc vous en dites un petit peu quand même sur vos objectifs. Et qui plus est, il y a un autre élément qui est quand même, qui questionne quand même un petit peu, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'avec la fin de ce parapluie américain, c'est toute l'Europe qui doit se réarmer et se sécuriser. Il y a un grand plan qui a été présenté la semaine passée et qui, me semble-t-il, va dans le bon sens. Donc comment peut-on imaginer aujourd'hui chiffrer exactement les besoins nationaux sans avoir évalué tous ensemble qui va faire quoi, comment on va assurer cette sécurité européenne et comment on va dépenser cet argent-là. Donc c'est en ça que c'est un peu...
Ce n'est pas le prix de chaque canon, je ne vous ai pas fait le calcul, mais le fait que l'armée est aujourd'hui française, on voit bien la faiblesse de l'armée française, on le lit partout, qu'il faille
c'est
monter
quand même
en
la meilleure d'Europe.
Mais attendez, de quoi parlez-vous, les comparatifs? Vous avez l'armée anglaise, l'armée française, l'armée polonaise en Europe. Enfin, si on compare avec l'armée espagnole, l'armée italienne, ils n'ont quasiment pas d'armée. Donc, regardons à ce qu'on se compare. Regardez.
Avec qui voulez-vous écouter Hervé Morin, l'ancien ministre de la Défense, qui estime que Emmanuel Macron, dans son allocution de la semaine dernière, a été trop catastrophiste? Écoutez.
Je n'ai pas aimé ce ton. Un ton du genre du sang et des larmes. Est-ce qu'on a besoin d'inquiéter excessivement nos compatriotes en leur disant, grosso modo, la menace ultime aux frontières de la France, c'est la Russie. Et moi,
on a dramatisé à outrance, oui, d'une certaine manière. Il a dramatisé à outrance et, dans la même intervention, il a rétropédalé. Il a dit, la Russie est une menace existentielle, mais la France ne craint rien parce que nous avons la dissuasion nucléaire. Oui, nous avons la dissuasion nucléaire. Et quand vous comparez les dépenses militaires de la Russie, des États-Unis et de la France, mais on compare des choses qui n'ont rien à voir. Les États-Unis ont des bases dans le monde entier. Leur puissance mondiale, leur rang de numéro un mondial dépend de leur domination militaire sur le monde. Mais ce n'est pas le cas de la France.
Mais pardon, bah c'est
la remise à niveau.
Donc on n'en avait pas besoin sur la dissuasion nucléaire.
Non, parce qu'aujourd'hui, dans la LPM, il y a la remise à niveau de notre composante aérienne et de notre composante sous-marine. Donc, les 50 nouveaux milliards, a priori, ne sont pas sur la dissuasion nucléaire. Parce qu'aujourd'hui, la LPM prévoyait, incluait dedans, la rénovation de ces deux composantes, qui sont les seules que nous ayons encore. Il faudrait être sûr que nous ayons besoin de cet argent. Bon. Voilà, premier élément. Parce que j'en reviens à...
Admettons.
Non, mais je termine ma démonstration. Oui. La France n'a pas les mêmes objectifs que les États-Unis. Nous ne voulons pas être présents sur... avoir des bases partout. Nous voulons défendre nos frontières, garantir l'intégrité de notre territoire et protéger notre population. C'est ça le rôle de nos armées, c'est écrit dans tous les textes officiels. Nous avons certes des territoires sur l'ensemble de la planète. Oui, nous devons protéger notre plus grande frontière terrestre qui est avec le Mexique, et notre plus grande avec le Brésil, et notre plus grande frontière maritime qui est avec l'Australie. Nous sommes bien loin de l'Europe et bien loin de l'Ukraine. Nous avons d'autres
préoccupations. Et en même temps, tiens la chaud.
Ils sont assez saisis, comme j'imagine nous tous, du revirement à Washington. Mm-hmm. À la présidence de Donald Trump, on l'annonçait. Voilà. Il avait quand même dit ce qu'il allait faire, mais on espérait toujours que c'est un chaos dans ses déclarations, que ça atterrirait peut-être différemment. Donc là, très clairement...
Mais comment...
Où, vous savez, quand on parle de la France, c'est un pays très différent des pairs européens d'un point de vue des dépenses publiques. Et un des premiers sujets, c'est que sur le social, nous avons environ un tiers de notre PIB qui va sur le social. En moyenne, dans les autres pays européens, c'est plutôt 22-24%. Donc là, je parle notamment des pays du nord de l'Europe, qui ne sont pas des pays d'ultralibéralisme où on laisse les gens mourir de faim. Au Danemark,
70 ans la retraite, au Danemark. C'est un modèle pour vous?
Est-ce qu'il n'y a pas de protection sociale?
70 ans la retraite au Danemark, c'est un modèle pour vous? C'est ça que vous voulez pour la France?
Je pense qu'il faut travailler beaucoup plus en France.
Comment vous arbitrez-vous ce qu'on vient d'entendre?
Moi, je pense que ça n'est même pas le sujet en réalité. Il est évident que nous avons en Europe une grosse différence par rapport aux États-Unis. C'est quand même notre modèle social, et en France en particulier.
L'État-providence hérité de l'après-guerre.
Etc., et qui était voulu, comme écouter les discours du général de Gaulle après la guerre, la sécurité, c'était aussi une sécurité sociale.
Mais quand on voit 34%...
investir dans la défense, c'est quoi se réarmer? C'est investir. Oui. C'est investir dans de la réindustrialisation, dans des nouvelles technologies. C'est investir, c'est une autre politique. C'est pas du social, c'est pas des transferts de masse. On n'est pas du tout, il n'y a pas d'incompatibilité, bien au contraire. Bien au contraire, si vous voulez avoir des salariés qui sont très qualifiés, qui sont parmi les plus qualifiés, vous faites quoi quand vous voulez attirer des salariés qualifiés? Eh bien, vous leur offrez un bon salaire, vous leur offrez des avantages sociaux. Et c'est ça, c'est s'imaginer qu'on va déconstruire un modèle social. En plus, enfin, c'est des ordres de grandeur
qui l'emmènent. Déconstruire.
Vous nous disiez que c'était un état horrible et ultra libre. C'est un manque de maîtrise.
Et justement, c'est bien des choses qu'au prisme du PIB. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le budget de l'État. Parce que la plupart des dépenses sociales, elles sont hors du budget de l'État. C'est la sécurité sociale, c'est pas le budget de l'État.
Il faut avoir un regard de l'histoire.
On pourrait flécher les encours des produits d'épargne déjà existants vers la défense. Et regardez, vous allez voir, les montants sont quand même colossaux. Près de 2000 milliards d'euros pour l'assurance vie, 443 milliards pour le livret A, 222 milliards pour le plan d'épargne logement, 119 milliards pour le plan d'épargne retraite. Et donc, on se dit, en voyant ces montants, que flécher 50 milliards d'euros sur les 2900 milliards d'épargne, ça semble quand même assez facilement réalisable. Reste à trouver la bonne manière de le faire. Mais selon Bercy, il est assez peu probable que l'option du livret A soit retenue. Pourquoi ? Parce que le livret A est un produit liquide avec des retraites très faciles et qui donc n'est pas forcément compatible avec des besoins de financement à grandes échelles des entreprises. Il y a une autre solution qui aurait été de créer un livret d'épargne spécial défense, mais là Bercy dit non aussi, trop long et beaucoup trop complexe à mettre en œuvre. Il reste donc l'assurance vie ou les plans d'épargne retraite, et ça semble être la solution qui séduit le plus aujourd'hui le ministère de l'économie. Ce qui veut dire que pour flécher ces encours, il faudrait créer un fonds spécial défense, libre ensuite aux épargnants de placer une partie de leur argent dans ce fonds. Ils seraient rémunérés pour, évidemment, comme c'est déjà le cas aujourd'hui dans d'autres secteurs. Et l'intérêt de cette option, eh bien, c'est que les montants qui sont placés le sont sur une durée qui est vraiment très longue. Bastien Lachaud, est-ce que vous...
Le sujet n'est
pas
là parce que...
Les Français sont inquiets.
Oui, bien sûr que les Français sont inquiets.
Des menaces russes.
Mais à mon avis, pas uniquement des menaces russes. Ouais. Quand on voit le dernier sondage qui explique que seulement 24% des Français considèrent que les Américains sont nos alliés, il faudrait peut-être que nos dirigeants le comprennent et cessent de toujours continuer à regarder mobiliser du côté des États-Unis.
De manière générale, mobiliser l'épargne, est-ce que c'est quelque chose qui est valable, qu'on peut entendre ?
Mais c'est la démonstration même que si le seul objectif, c'est de mobiliser l'épargne, c'est que nous ne sommes pas dans une économie de guerre. Nous ne sommes pas dans une économie de guerre. Pourquoi ? Une économie de guerre, c'est pas ça. Une économie de guerre, c'est ce que Franklin Delano Roosevelt a fait en 1940 aux États-Unis. 33%
impôts,
du budget allait à la défense. Et si l'on veut parler d'économie de guerre, oui, en effet, tout le monde contribuait. On est passé quand même d'un taux d'imposition des plus fortunés de 74% en 1938 sur les revenus de plus de 410 millions de dollars à 94% sur les revenus de plus de 8,8 millions en 1944.
Personne n'était imposé.
L'impôt ne serait pas une solution.
Mais pourquoi ? Alors vous seriez pas, vous n'êtes pas contre un taux d'imposition marginal à 90%?
Moi, je vous rejoins sur le fait.
Donc on n'est pas dans une économie de guerre.
Mais Dieu merci.
Mais ça fait trois ans.
Nous ne sommes pas en 1942, en effet. Non, mais les vraies économies. C'est ce qu'a l'Ukraine. Un pays qui est dévasté. Enfin, non. Je pense qu'on est tous heureux, nous sommes dans un moment où il faut investir fortement dans la défense.
Ça fait trois ans que le gouvernement nous dit
massivement dans la défense.
Et vous ne savez même pas pour faire quoi? Dites-nous pourquoi faire. Pour quelles compétences?
Non, mais
on en a déjà parlé.
Attendez, intéressant. Keynes, par exemple, dans les années...
L'économiste
Keynes. Donc, il était au Trésor britannique avant la Deuxième Guerre mondiale. Il a beaucoup réfléchi à ces sujets. Et lui, il voulait de l'épargne forcée. Et d'ailleurs, ça a été refusé. Il était furieux à ce moment-là. Il est parti. Bon, peu importe. Donc, c'est un sujet qui revient très souvent. Mais le problème, c'est que cette épargne, elle n'est pas gentiment en train de dormir. Elle ne faisait pas des piles de billets je ne sais où dans les banques. Elle est complètement investie. Et on reboute la question. L'assurance vie, elle investit en quoi? Et bien, en dette française. On est tellement endetté. L'assurance vie.
Ah oui, mais en même temps.
On n'a pas encore vu comment l'Europe va traiter les pays qui ne sont toujours pas dans les clous et qui le seront encore moins en dépensant plus. Ce qui est très très intéressant, et je vais revenir sur le sujet de l'Europe puisque vous me lancez sur le sujet de l'Europe, vous avez quand même une grande partie de l'épargne des Européens qui part aujourd'hui aux États-Unis. L'enjeu de souveraineté, c'est un enjeu qui recouvre aussi cet enjeu financier. comment aujourd'hui rapatrie-t-on l'épargne des Européens en Europe pour que cette épargne, une partie, une petite partie de cette épargne, puisse servir aussi les enjeux de sécurité face aux menaces militaires. Et ça, c'est un vrai sujet. Et on s'aperçoit que cette question, c'est ce que je voulais dire dans ma première réponse, on s'aperçoit que c'est...
On peut faire un emprunt européen pour la défense.
On peut faire un emprunt
européen. Sur le modèle de l'emprunt pour le Covid.
Il y a l'idée de constituer un fonds spécial défense au niveau européen doté de 150 milliards qui permettra d'accorder des crédits aux États. Donc il y a tout un tas d'initiatives qui sont possibles. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le sujet nos pensions versus nos canons, c'est pas vraiment un sujet en réalité.
On annonce 800 milliards. On regarde
près. 150 milliards.
Il y a 150 milliards d'emprunts et 650 milliards où la Commission autorise les États à s'endetter pour le faire. Donc on n'est absolument pas sûr que les États vont le faire. Donc les 800 milliards, c'est très hypothétique. Concentrons-nous sur les 150 milliards et regardons-les d'un point de vue français, s'il vous plaît.
Donc
la France, vous le savez, contribue plus au budget européen qu'elle ne touche du budget européen. Je vous rappelle que sur l'emprunt Covid, nous avons remboursé plus que ce que nous avons touché. Et là, sur les 150 milliards, nous allons en rembourser 17%, c'est la quote-part de la France. Et donc, en fait, nous allons toucher moins de la part de l'Union européenne que ce que nous allons rembourser à l'Union européenne. Donc, si l'on regarde strictement et stricto sensu la défense française, cela nous coûte de l'argent. Et donc, nous allons moins pouvoir faire d'efforts.
Donc, c'est non. Donc,
vous dites évidemment que c'est non. Parce qu'on va donner de l'argent et à la fin, on en aura moins que ce qu'on a donné.